Chers auditeurs, vos désirs sont des ordres. Des fois, on prend un peu de temps pour les exécuter. Mais la semaine dernière, quand ça a brassé à Cuba, il y a un auditeur qui nous a écrit puis qui a dit « Vous devriez parler à quelqu'un qui peut nous expliquer ce qui se passe dans ce pays-là. C'est quand même une des destinations majeures où s'en vont les Québécois. Est-ce qu'on devrait y aller? Est-ce qu'on devrait pas y aller? » Essayez de nous éclaircir, de nous éclairer là-dessus. Ouais. Hier soir, on est tombé sur... c'est toi, Anne-Sophie, tu es tombé sur un extrait de la Cubacoise.
La Cubacoise.
Qui est clairement une Cubaine immigrée au Québec.
Oui, puis il y a encore de la famille à Cuba, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la Cubacoise, parce qu'elle fait plein de vidéos pour informer les gens au Québec de ce qui se passe vraiment là-bas, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent. Mais par contre, là, elle ne veut pas donner son nom. Alors, la Cubacoise a un extrait de « Est-ce qu'on devrait aller à Cuba? »
Croyez-moi, vous avez de très bonnes intentions, mais en date d'aujourd'hui, là, il y en a entre 7000 et 8000 cas de COVID par jour à Cuba. Donc, côté pandémie, non, d'après moi, ce n'est pas le temps du tout d'aller à Cuba. Côté encourager le tourisme pour aider le peuple, écoutez, les forfaits que vous payez entre 1000 et 1200, mettons, il y a minimum 400 à 500 $ de taxes là-dedans. Après ça, la compagnie aérienne n'est pas payée, vos transferts ne sont pas payés, l'hôtel n'est pas payé, les employés de l'hôtel ne sont pas payés, la nourriture que vous consommez n'est pas payée. Pensez-vous vraiment qu'il y a une grosse partie des profits de votre forfait qui va au peuple? Présentement, il y a beaucoup de villes qui sont fermés. On ne peut pas se promener librement à Cuba comme avant. C'est clair que c'est non. Vous devez respecter une quarantaine à votre hôtel. Par la suite, vous allez être pris pour donner au staff de l'hôtel tout ce que vous apportez pour qu'eux ils puissent le distribuer entre eux et leur famille. Oui, ils vont garder pour eux ce qu'ils ont besoin, mais le reste, il va se ramasser au marché noir à des prix très élevés. Donc, les vraies personnes qui ont besoin de ce que vous apportez, ils ne pourront pas se le payer. Si vous voulez aller à Cuba, c'est votre choix. Mais moi, comme Cubaine, j'irai pas à Cuba présentement, même si je rêve d'aider ma famille.
OK. Donc, ça, c'est le message, mais très, très senti de quelqu'un. Ouais. Mais je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ce pays-là pour que ça se mette à manifester l'autre jour d'une manière aussi vigoureuse. D'ailleurs, j'ai perdu un peu le fil de ce qui s'est passé dans ce pays-là depuis que les Castro semblent avoir levé le camp. On a au téléphone quelqu'un qui, lui, sait tout ça. Parce que Éric Arsenault, c'est un professeur d'actualité au cégep de Jonquière. Parlez à n'importe lequel de ses étudiants, là. Lui, il connaît ça. Salut Éric.
Bonjour Myriam.
Qu'est-ce qui se passe à Cuba?
Ben, je pense que c'est le grand ras-le-bol collectif. Et c'est pas la première fois que ça arrive, mais les vagues de manifestations, de mécontentement, d'insatisfaction, généralement, on en a peu d'écho ici. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est à Cuba dans un régime communiste et tous les médias s'y trouvent contrôlés. Sauf que le 11 juillet dernier, est arrivé un événement qui est rarissime dans l'île. Il y a des millions de personnes, je devrais dire des milliers de personnes, dans les rues de la Havane, mais dans d'autres villes également de Cuba, qui sont sorties dans les rues. Et pour autant qu'on en sache, c'est celle de manifestations spontanées. On connaît pas l'origine, les instigateurs, ça a circulé sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, et les gens se sont retrouvés dans la rue pour dénoncer, dans un certain sens, une espèce de ras-le-bol collectif. Les gens criaient dans la rue « on a faim ». Abat la dictature, on n'a plus peur. L'économie cubaine est en faillite. Et je pense que le témoignage que vous venez de faire entendre nous donne quand même quelques idées là-dessus. L'économie cubaine est en faillite. Les pénuries sont généralisées. Ça a toujours été le cas à Cuba, mais c'est particulièrement aigu depuis le début de la pandémie. Parce qu'évidemment, la pandémie a arrêté l'industrie touristique là-bas et c'est la principale source de devises étrangères. C'est la principale industrie touristique de l'île. La COVID y est très présente. Je pense que votre intervenante tout à l'heure le laissait entendre. On assiste à une flambée, une explosion des cas et le gouvernement est beaucoup critiqué pour sa gestion des cas, même si pourtant dans le passé, on a souvent dit de Cuba qu'il avait un système de santé extraordinaire. Mais là, on se rend compte de toutes les craques et les failles qu'il y a dans ce système de santé. Bref, on pourrait faire la liste très longue, mais je pense que ce qui s'est passé à Cuba, c'est le sentiment d'un ras-le-bol collectif. Les gens là-bas sont absolument écœurés, dégoûtés, non seulement de l'absence de liberté puis des privations et tout le reste, mais carrément l'économie du pays étant en faillite. Je lisais certains rapports qui nous disaient que Cuba est un pays qui est pratiquement, dans certaines régions, au bord de la famine.
Ah oui, à ce point-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les Castro avaient quand même la main mise sur le pays et pouvaient se targuer d'avoir un peuple éduqué et soigné gratuitement. Là, tout à coup, tout ça semble s'être effondré.
Ben, en fait, il y a beaucoup de remises en question. La révolution cubaine remonte quand même à 1959. Ça fait 60 ans de ça. Et les Castro, comme tu l'as bien mentionné, ne sont plus dans le décor. Fidel est mort il y a quelques années et Raoul, son frère qui lui avait succédé, a cédé la place le printemps dernier à une nouvelle génération de dirigeants. L'actuel président du pays, celui qui a succédé à Raoul Castro, c'est un gars qui, contrairement à Fidel qui était très charismatique, Raoul l'était quand même un peu moins, mais il y avait le nom Castro, ça aidait beaucoup. Puis à Cuba, on avait beaucoup de respect pour le nom Castro, puis la révolution, puis tout ce que ça a apporté dans le pays et tout ça. Sauf que l'actuel dirigeant, Miguel Díaz-Canel, c'est un apparatchik, c'est quelqu'un qui a vécu, c'était le dauphin de Raoul Castro, c'est quelqu'un qui manque de charisme, c'est quelqu'un dont on dit qu'il est plutôt incompétent, très autoritaire, et il a, depuis le mois de février-mars, assumer le pouvoir. Raoul Castro reste quand même dans le décor, là. Il reste quand même pas loin en arrière et tout ça, mais c'est une nouvelle génération de dirigeants. Et je me demande si quelque part, cette espèce de passation des pouvoirs, les Castro qui libèrent la place pour une nouvelle génération, si à Cuba, il n'y a pas des gens et des Cubains qui ont espéré, ben, peut-être que ça serait l'occasion d'une ouverture, un peu comme ça a été le cas en Chine dans les années 80 lorsque certains dirigeants réformateurs sont arrivés au pouvoir. On s'est demandé, est-ce que ce Díaz-Canel pourrait pas être éventuellement celui qui tranquillement ouvrirait pas le pays? Il y a eu l'épisode avec Barack Obama, tu te souviens, qui est allé faire un tour dans le coin, puis bon, finalement, Donald Trump a refermé la porte. Au contraire, il a même resserré le blocus et l'embargo économique contre Cuba. Mais peut-être qu'à Cuba, certains sont dit, peut-être que ce nouveau dirigeant-là va nous laisser un petit peu plus de liberté, un peu plus d'air pour respirer. Et on se rend compte que c'est exactement le contraire qui s'est passé.
Donc, il y a donc une passation de pouvoir qui passe mal, mais il faut bien pour que la même journée, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de plusieurs villes, ça prend bien une synchronisation quelque part. Il y en a qui vont dire, guette bien ça, c'est la CIA qui a organisé ça.
Ben d'ailleurs, c'est la ligne de défense, dans le fond, du régime castriste, du régime cubain, qui dit que c'est une opération orchestrée par les États-Unis, c'est une manœuvre pour déstabiliser le pays. Il n'y a pas de crise sociale à Cuba, selon le régime cubain, même s'ils reconnaissent qu'il y a effectivement des difficultés économiques, mais des difficultés économiques qui, selon le régime, est imputable à l'embargo économique, imputable aux Américains. Bon, on n'a pas besoin de remonter très loin dans le passé, Myriam, pour se rappeler que les Américains ont toujours été, par le biais de la CIA interposée, toujours été très actifs à Cuba. On compte plus le nombre de tentatives d'assassinat de Fidel Castro, puis l'épisode de la baie des cochons et tout le reste. Ceci étant dit, moi, j'hésiterais à m'avancer. Est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose de vraiment spontané qui arrive comme ça? À la différence des autres grands mouvements de contestation qui ont eu lieu à Cuba, et le dernier, ils sont quand même rares, mais le dernier en date, c'est celui de 1994, où notamment 30 000 Cubains avaient pris le chemin de l'exil par bateau, puis s'en allaient en Floride, etc. Ce qui est différent cette année, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. D'ailleurs, c'est pas anodin de voir que l'une des premières décisions du gouvernement, du régime cubain pour mettre fin aux manifestations d'il y a 15 jours, c'est justement de couper Internet et d'interdire l'accès aux réseaux sociaux. Ceci étant dit, est-ce qu'il pourrait y avoir, ne serait-ce que par la diaspora cubaine, qui est très active, notamment aux États-Unis, en Floride, à Miami et tout le reste, est-ce qu'il pourrait y avoir un instigateur, un mouvement ou quelque chose de ce genre-là? C'est impossible pour l'instant de le savoir, mais il faut savoir que le mouvement a été tué dans l'œuf parce que le régime cubain a procédé à des milliers d'arrestations des universitaires, des dissidents, les artistes qui sont au fait de la contestation depuis déjà bon nombre d'années ont été visés, plusieurs sont incarcérés, il y a des condamnations, des procès expéditifs, des gens qui sont retrouvés en prison. Bref, quelle est l'origine de tout ça? C'est vraiment difficile de se faire une tête là-dessus.
Mais plutôt, vous avez parlé des hôpitaux, puis moi, j'écoutais des vidéos de la Cubacoise qu'on a vues juste avant, là, qu'on entendait. Elle disait que c'était l'enfer dans les hôpitaux, qu'il n'y avait même plus d'ibuprofène, que les gens, les femmes enceintes pouvaient même pas accoucher. Est-ce que vous savez des informations là-dessus dans les hôpitaux?
C'est tout à fait conforme à ce que j'entends également, moi aussi, Anne-Sophie. Mm-hmm. On fait face à Cuba, notamment à des pénuries alimentaires, même les produits d'hygiène personnelle. Obtenir du savon à Cuba, Autrement que dans les resorts et les zones de villégiature, mais ça relève véritablement de l'exploit. Votre intervenante que vous avez fait entendre un petit peu plus tôt nous parlait du marché noir. Ouais. Le marché noir est florissant à Cuba, mais pour pouvoir acheter des marchandises au marché noir, ça prend des devises étrangères. Or, Donald Trump, il y a de cela un an ou deux, avant de quitter le pouvoir, avait décidé de resserrer l'embargo économique contre Cuba. Et on interdit maintenant, ou encore, on restreint de façon très importante les transferts de fonds qui pouvaient arriver de l'étranger pour les Cubains. Bien souvent, pour les Cubains, les devises étrangères, notamment le dollar américain qui arrivait de la part d'expatriés, c'était une des seules façons de pouvoir justement acquérir de la marchandise sur le marché noir. Et dépourvu de ces devises étrangères-là, aujourd'hui, ils se retrouvent démunis. Il faut savoir qu'on a, en début d'année, à Cuba, décidé d'abolir le système à deux devises. Parce que si vous êtes déjà allé à Cuba, vous êtes rendu compte qu'il y a deux devises en circulation. Une qui était convertible, donc on pouvait échanger pour des devises étrangères, et une autre qui l'était pas. Or, on a décidé d'unifier les deux monnaies. Justement, c'est une réponse du régime cubain à la crise économique du pays. Sauf que ça a entraîné une véritable inflation. On parle d'une inflation entre 4 et 500 %. Les gens sont incapables de s'en procurer. Et Anne-Sophie, pour revenir à la question de la santé dont tu parlais tout à l'heure, on parle de pénurie alimentaire, mais également beaucoup de pénurie de médicaments. Et c'est assez paradoxal dans la mesure où Cuba s'est toujours vanté d'avoir un système de santé incroyable, mais avec le temps, on se rend compte que c'est une image d'Épinal qui aujourd'hui est plus tout à fait conforme à la réalité. Oui, effectivement, à une certaine époque, les Cubains avaient accès à des services de santé de très grande qualité, puis avaient accès gratuitement à ces systèmes, à ces services de santé-là. Sauf que, dans un certain sens, Cuba s'est servi de son régime de santé, de ses médecins, de ses infirmières, justement pour exporter à l'étranger. Et bien souvent, on se rend compte d'hôpitaux dépourvus de personnel médical. Pourquoi? Parce que Cuba a envoyé son personnel médical à l'étranger, notamment à des fins de propagande, mais également parce que ça lui permet de ramener des devises ici. Alors, le système de santé cubain n'a plus rien à voir à l'image qu'on s'en faisait peut-être dans les années 70 et 80, où on voyait ça comme une espèce de modèle de système de santé.
On avait aussi l'impression que voyager à Cuba, c'était sécuritaire. Or, depuis que tu me parles et depuis qu'on a fait entendre l'extrait de la Cubacoise, là, je reçois des dizaines de textos des auditeurs qui me disent qu'on est rendu avec des enlèvements de touristes, détournés vers des hôpitaux, rançonnés par la police, etc. Est-ce que c'est vrai?
Ben, c'est drôle que tu me poses la question, Myriam, dans mesure où ce matin même, je suis allé sur le site d'Affaires Mondiales Canada, qui justement fournit aux touristes des informations sur différents pays. Et ce qu'on y lit au sujet de Cuba est loin d'être rassurant. Je vous parlais de pénurie tout à l'heure. Les pénuries de biens, l'essence, les produits alimentaires, les médicaments sont constantes dans le pays. Et ça a amené une réduction notamment des services de transport et souvent devant les épiceries, les stations d'essence, les pharmacies. Si vous êtes dans un resort, bon, les complexes hôteliers ont généralement des génératrices et tout ça face aux coupures d'électricité. Mais si vous voyagez par vous-même, vous êtes un voyageur indépendant, vous risquez d'avoir de la difficulté à obtenir des services pendant une panne d'électricité. Vous risquez de vous buter, par exemple, aux pénuries d'essence ou encore de nourriture ou de médicaments qu'on voit un petit peu partout. Bien souvent, quand on voyage à l'étranger, c'est important d'avoir, par exemple, un téléphone cellulaire, des communications pour réussir à, ne serait-ce que sur le web, aller voir ce qui se passe, etc. Le réseau de télécommunications à Cuba est peu fiable. Les communications sont bien sûr améliorées, mais notamment avec les troubles des dernières semaines, les communications sont aléatoires, souvent c'est coupé. Et les troubles qui ont eu lieu il y a de cela deux semaines pourraient éventuellement perturber les services essentiels. Alors, bref, ça devient. Tu parlais d'insécurité tout à l'heure. Je peux pas vraiment me prononcer sur les histoires d'enlèvement, mais la criminalité y est effectivement bien présente. Le réseau routier est dans un état déplorable. On déconseille fortement à quiconque de conduire un véhicule. D'abord, trouver un véhicule à Cuba qui a de l'allure, c'est déjà un exploit, parce que bien souvent, on rafistole les vieilles voitures américaines, l'image qu'on a déjà. Oui. Et au-delà de ça, les routes sont très peu sécuritaires, sont dans un état qui est déplorable. Bref, c'est effectivement, à part des stations balnéaires ou de villégiature, les tout inclus qu'on connaît bien, et où on est dans un certain sens quasiment isolé du vrai Cuba, pour le reste, ça devient effectivement compliqué de voyager à Cuba.
Dans le fond, maintenant, on est dans l'ère après Castro, avec une génération de jeunes qui ont eu accès à l'Internet et qui se demandent si le Cuba de l'avenir est encore celui des frères Castro.
Ben, je pense que tu viens de toucher le point essentiel. Parce que on a tellement, dans le passé, depuis 60 ans, prédit la fin du régime cubain, et pourtant, 60 ans plus tard, il est toujours là. Mais de plus en plus, on sent que c'est un géant au pied d'argile. Et les jeunes, des nouvelles générations, qui n'ont rien connu d'autre que des privations, que des coupures, aspirent maintenant à plus. Et on le voit maintenant avec l'accès à Internet, puis les réseaux sociaux, puis ils sont capables d'être en lien, puis ils se rendent compte que le régime actuel est totalement déconnecté de sa population et que le modèle communiste, qui a été un échec partout dans le monde, même en Chine, où on a finalement dû se résigner à s'ouvrir à l'économie de marché parce qu'on se rendait compte que ça marchait pas, mais on se rend compte que c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Et à Cuba, un peu comme en Corée du Nord, on est d'être pur et dur par rapport à ça. Il y a eu quelques tentatives de libéralisation puis de privatisation, mais ça reste tellement marginal. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes Cubains, voyant ce qui se passe ailleurs dans le monde, se disent, c'est pas vrai qu'on va finir nos jours dans un système comme celui-là.
Éric, je profite de ta présence à notre micro pour te poser des questions sur un autre pays qui a l'air de vivre une crise, la Tunisie, où le président a congédié le premier ministre. On aurait un peu de misère à imaginer notre GG congédier Justin Trudeau sans qu'il le veuille, là. Es-tu capable de me dire ce qui se passe dans ce pays-là aussi?
Oui, mais en fait, le système est évidemment très différent du nôtre, il faut déjà le comprendre, mais ce qu'on voit actuellement en Tunisie, alors l'espèce, certains parlent de coup d'État, d'autres disent de coup de force de la part du président, c'est qu'actuellement, au-delà de la crise économique, de la crise sociale, puis de la crise pandémique, parce que la pandémie en Tunisie fait des ravages également, mais au-delà de ça, il y a une véritable crise politique qui, dans le fond, oppose un bras de fer qui oppose deux camps rivaux. Dans un premier temps, et dans un premier camp, tu as le président, Kais Saied, qui a été élu en 2019, qui est un personnage qui est relativement populaire, qui n'appartient pas à l'espèce d'élite corrompue qui remonte à la dictature d'avant le printemps arabe. Et de l'autre côté, dans l'autre camp, vous avez un parti politique islamo-conservateur, le parti Ennahda, qui contrôle, même s'il n'a pas la majorité au Parlement, mais qui contrôle dans un certain sens l'appareil législatif depuis 10 ans. Et actuellement, ce à quoi on assiste, c'est un clash entre les deux, entre le président et le parti Ennahda. L'épreuve de force, ça fait des mois, Myriam, qu'on voit poindre ça, parce que le président a refusé au cours des derniers mois la nomination, par exemple, de gens issus du parti Ennahda au Conseil des ministres, parce qu'il les soupçonnait d'être liés à des affaires de corruption. La colère de la population et la popularité du parti Ennahda s'effrite également dans la population, qu'on rend responsable de la paralysie de l'État et des institutions. Et dans un certain sens, ce que le président Saied a fait il y a de cela quelques jours, c'est suspendre le Parlement, limoger le premier ministre, il s'est arrogé le pouvoir exécutif. Tout ça, c'est de façon, nous dit-il, transitoire, et d'ici une trentaine de jours, il devrait y avoir probablement un référendum pour tenter de clarifier les choses. Bref, on est encore un petit peu dans l'inconnu par rapport à tout ça.
Sauf que ce que je comprends, c'est que le président résiste aux tentations islamiques intégristes.
Oui, encore que le parti Ennahda, il faut bien le dire, là, on n'est pas dans l'intégrisme religieux comme on l'a vu à certains endroits, mais c'est un parti effectivement qui est islamiste, c'est un parti qui est davantage conservateur qu'autre chose. Mais le président, effectivement, est au-delà du caractère islamique de ce parti-là, il y a le fait que certains des membres et certains particulièrement des dirigeants de ce parti-là se comportent aujourd'hui un peu comme l'ancienne clique de dictateurs dont on s'est débarrassé avec le printemps arabe se comportait. Alors, il y a beaucoup de corruption, de népotisme à l'intérieur du parti. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, leur soutien populaire a beaucoup faibli au cours des dernières années. On rend le parti Ennahda responsable d'à peu près tous les maux, l'espèce d'incurie politique, le contexte économique actuel, la mauvaise gestion de la crise sanitaire avec la pandémie de COVID. Et dans un certain sens, c'est cette épreuve de force entre le pouvoir, le pouvoir présidentiel et le parti politique qui contrôle le législatif qu'on voit poindre actuellement à l'horizon.
C'est toujours important ce qui se passe en Tunisie parce que j'ai l'impression que c'est le pays le plus démocratique et peut-être le plus occidental du monde arabe.
Oui, tu as parfaitement raison. Ben d'ailleurs, c'est là, la Tunisie, c'est le berceau du printemps arabe. Et c'est aujourd'hui le seul pays où l'expérience démocratique qui a été lancée avec le printemps arabe se poursuit toujours de façon chaotique, avec toutes sortes de problèmes, on le voit actuellement, mais ça se compare pas à ce qu'on a vu. Par exemple, l'Égypte est redevenue une dictature, pire ouais. peut-être qu'elle était avant le printemps arabe. On voit ce que ça a donné en Libye, au Yémen, en Syrie, où ça a viré en guerre civile. Dans d'autres pays, au contraire, la répression s'est faite de façon beaucoup plus musclée. Et dans certains pays arabo-musulmans, on voyait la Tunisie comme étant une espèce de laboratoire en temps réel. Parce qu'on a toujours dit la démocratie est incompatible avec l'islam, avec le monde arabo-musulman. Et la Tunisie nous faisait la preuve depuis une dizaine d'années que, ben non, ça pouvait être possible. Et on l'a vu en Algérie, lorsqu'il y a eu, en 2019, renversement de la dictature. Ben, les révolutionnaires, je mets ça entre guillemets, là, mais les protestataires en Algérie s'inspiraient beaucoup de ce qui s'était passé en Tunisie 10 ans plus tôt. Alors, si ça foire en Tunisie, ben, c'est un mauvais signal que ça envoie aux autres mouvements démocratiques des autres pays de cette région du monde-là.
Merci beaucoup, Éric Arsenault. Et de la part de mes auditeurs, là, regarde, il y en a un qui me dit « Parle-moi de ça, un gars qui sait de quoi il parle. » Et une autre qui dit « Je suis cubaine, le monsieur qui vient de parler est très bien informé. » Merci beaucoup d'avoir partagé ta connaissance.
Veux,
merci, et maudit que les étudiants d'ATM sont chanceux de t'avoir comme prof d'actualité. Salut!
C'est trop gentil, merci, bye-bye, à la prochaine.
13h50.